Voilà, nous allons commencer, ne pas tarder pour ne pas finir trop tard. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, le président du Centre Sèvres, donc le père Étienne Grieux, va nous dire quelques mots d'accueil. Et puis après, j'enchaînerai après lui.
Voilà, mais simplement pour vous souhaiter la bienvenue au Centre Sèvres et pour vous dire que nous sommes très heureux que cette soirée puisse avoir lieu ici. Cette soirée sur ce livre « Le monde syrien » qui nous permet de découvrir un peu plus ce monde que nous ne connaissons pas très bien. Hein. Voilà. On peut dire au Centre Sèvres, il y a un département d'études patristiques assez important et qui a des liens aussi avec les sources chrétiennes à Lyon, hein, des liens très réguliers. Voilà, donc on peut dire aussi, parmi les étudiants, il y a quelques étudiants qui viennent de ces églises du Moyen-Orient. Voilà. Donc tout ça, ça fait des liens. Et du coup, nous sommes heureux de cette soirée. Voilà. Eh bien, très bonne soirée à vous. Voilà. Et je repasse la parole à Dominique Gonnet.
Merci beaucoup, Étienne, pour ton accueil et ton accueil dans ce bel institut, ce beau centre Sèvres. Alors, avant de vous présenter au fur et à mesure des interventions, chacun de ceux qui vous parlent aujourd'hui, je voudrais vous les présenter d'abord tous les trois, ensemble. Je suis très heureux de les voir réunis par cette occasion. Tous les trois, comme un groupe de travail et d'amitié, je dirais presque une trinité. En effet, par leur, oui, pas sainte, je ne sais pas, mais en tout cas, s'occupant de saints sujets, par leurs compétences, leur dynamisme, leur travail acharné, qui a permis la fondation de la Société d'études syriaques et de la collection du même nom, collection d'études syriaques. Donc, je vous présente un volume caractérisé par leur couleur. C'est l'un des 14 volumes déjà apparus uniquement dans cette partie des éditions de ce que produisent la Société d'études syriaques. Et ils ont réussi la gageure de publier un volume par an sur la tradition syriaque depuis 14 ans. Donc si vous adhérez à la Société d'études syriaques pour la modique somme de 45 euros, vous n'aurez pas simplement le bonheur d'assister à l'Assemblée Générale, mais aussi celui de recevoir un volume, une association, je crois, un peu exceptionnelle dans son genre. Même si le livre présenté aujourd'hui est signé seulement de Françoise Briquel-Chatonnet, ma proche voisine, et de Muriel Debier, ce sont eux trois qui ont relancé, animé et coordonné les études syriaques en France, bien sûr en fédérant une foule de collaborateurs à travers le monde, mais aussi par les multiples publications de chacun d'entre eux. Par leur connaissance aussi vivante des chrétiens qui utilisent le syriaque, et j'insisterai beaucoup sur cet aspect qui n'est pas simplement livresque ou simplement connaissance de manuscrits, mais par une présence à ces églises. Non seulement dans le Proche-Orient, mais encore en Inde, où ils sont allés plusieurs fois, pour rencontrer cette foule de chrétiens qui sont actuellement dans des pays aussi différents, et des chrétiens dont beaucoup souffrent précisément. Le livre donc porte cette trace de ce témoignage. Et je dirais plus encore, ces études permettent de rapprocher nos pays de ces pays, de leur reconnaître l'épaisseur de toute leur histoire. Et je crois que cette dimension, eh bien, doit permettre de comprendre nos propres racines. Car parfois, les chrétiens d'Orient sont un peu gênés par le fait que on emploie ce terme pour les désigner. En somme, ce sont des chrétiens comme nous sommes, beaucoup d'entre nous. Ce sont des chrétiens qui sont à la source de ce christianisme et de la même langue du Christ. Bon, peut-être c'est pas tout à fait la même langue que parlait Jésus, mais très proche. Et je signale en particulier les travaux d'Alain Desremaux sur le judéo-araméen, sur une langue qui est comme cet intermédiaire entre le syriaque et l'araméen du temps de Jésus. Donc c'est en pensant à tous ces chrétiens d'Orient, chrétiens syriaques, disons pour employer une expression plus juste, que nous pourrons écouter ce qu'ils nous disent maintenant. Alors je présente Françoise Briquel. Françoise Briquel, donc ma voisine, directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe de l'unité mixte de recherche du CNRS Orient et Méditerranée, monde sémitique, a reçu le prix Irène Joliot-Curie 2016 de la femme scientifique de l'année. Sa thèse concernait l'Antiquité biblique et donc les langues sémitiques écrites à cette époque-là, mais très vite, elle obtient un poste de pensionnaire à la Bibliothèque nationale pour travailler sur le catalogage des manuscrits en syriaque, dont elle dit elle-même dans une interview que c'était alors une source documentaire inouïe et encore négligée. Et ses recherches portent principalement sur la culture écrite syriaque, manuscrits et inscriptions. Voilà, je lui laisse maintenant la parole pour présenter le livre avec, et ensuite donc Muriel enchaînera.
Alors, nous avons un petit peu prévu de le faire comme un chant à Mébé.
Oui.
Donc nous nous passerons...
Ah ben alors je vais présenter
Muriel. Voilà, peut-être présenter Muriel.
Présenter Muriel de la même façon. Alors, Muriel, directrice d'études à l'École pratique des hautes études en sciences religieuses, christianisme orientaux, s'est orientée vers les chroniques syriaques et l'apocalyptique. Sa thèse portait sur les rapports de l'historiographie syriaque avec l'historiographie grecque. Elle a, elle aussi, catalogué des manuscrits, un travail de patience, et elle en a également édité et traduit un certain nombre, faisant connaître des inédits, dont il y a beaucoup en syriaque, les commentant et les expliquant. Elle s'intéresse particulièrement aux relations entre les chrétientés orientales et l'islam naissant. Elle a lancé, eh bien, il n'y a pas longtemps, la bibliothèque de l'Orient chrétien, qui est aussi aux belles lettres, comme le livre qu'elles vont présenter toutes les deux ce soir. Et elle était visiteur à l'Institute for Advanced Studies à Princeton au moment de la rédaction de l'ouvrage. Voilà, et bien je leur laisse la parole à toutes les deux pour ce chant à Mébé.
Voilà, une habitude de travailler à deux qui permet aussi de faire des livres par Skype. Alors, le projet est né du fait que de plusieurs choses. D'abord que nous enseignons toutes les deux, que nous avons eu l'occasion de faire des enseignements et des conférences sur la culture syriaque et que chaque fois nous étions bien ennuyés de donner une bibliographie parce qu'on ne savait pas trop quel livre conseiller qui puisse être une introduction. Ce qui existe sur la culture syriaque, c'est en français une histoire de la littérature qui date de la fin du 19e siècle. Et puis, dans des histoires de l'Église, des histoires, mais qui sont justement très ecclésiastiques. Et notre intérêt, notre goût, nous portait plus vers l'histoire des communautés et vers l'étude d'une culture. Donc, c'était un petit peu, j'allais dire, pour avoir un outil dont nous avions besoin, que nous avons été tentés de faire ce livre, avec l'idée aussi qu'on perçoit souvent cette culture d'une manière très livresque. Les publications, ce sont des publications de textes, des éditions, et que nous voulions donner à voir une culture qui est encore vivante, qui en tout cas l'a été, qui est celle de Jean. Donc notre chance a été de rencontrer un éditeur qui a accepté de faire un livre où il y a bien entendu un texte, mais aussi beaucoup d'illustrations. Et ça, c'était donner à voir nous importait, et qui nous a permis aussi de donner beaucoup de citations de textes en traduction française pour faire aussi goûter ce patrimoine pourquoi pas le lire à haute voix, l'écouter, enfin voilà, de permettre une entrée plus importante dans cette culture. Culture qui est en fait, dans l'Antiquité, une culture chrétienne fondamentale. On parle beaucoup de la culture grecque chrétienne, de la culture latine chrétienne, et la culture syriaque peut être mise sur le même plan, à la fois par l'ampleur de ce qu'elle nous a laissé comme théologie, comme œuvre, comme culture, et à la fois parce que comme la culture latine et la culture grecque, elle a eu une sorte de vocation à l'universalisme. C'était au départ la culture d'un endroit, mais qui a été répandue de façon extrêmement large, j'allais dire dans l'Antiquité, même plus que les deux autres, ce qui la rend assez différente dans son histoire de la culture copte, qui est toujours restée celle des Égyptiens, ou de la culture arménienne, qui est restée celle des Arméniens. Donc c'est une culture qui a été universelle. Et donc, quand le pape Jean-Paul II avait parlé des deux poumons de l'Église qu'il fallait faire marcher sur le même plan, la réponse de Sébastien Brock, qui est un peu le pape du Syriaque, a été de dire « il y en a un troisième, bon, on peut difficilement parler de trois poumons, mais on peut parler d'une table qui a besoin de ses trois pieds pour tenir debout ». Et c'était donc avec l'idée de présenter cette culture qui est un peu inconnue. On parle de chrétiens d'Orient. Alors, Dominique a bien montré qu'ils ne sont pas plus orientaux, c'est plutôt des chrétiens du centre et nous qui sommes des chrétiens de l'Occident. Et, mais aussi, comme si c'était une unité, dire les chrétiens d'Orient, c'est dire que c'est tout la même chose, comme si le catholicisme romain de Rome et les évangéliques américains et le luthéranisme suédois, c'était la même chose. Je veux dire, il y a des incarnations différentes. Donc c'est une de ces incarnations de l'Église, avec son importance, qu'on a voulu mettre en œuvre là. Une culture qui s'enracine dans une histoire extrêmement ancienne, puisque c'est une culture araméenne. Ce qu'on appelle syriaque, c'est une langue qui est l'araméen sous la forme utilisée par les chrétiens. C'est l'araméen chrétien. Donc qui s'enracine dans une culture araméenne qui est attesté par des textes depuis le 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc les plus anciens textes araméens sont antérieurs aux plus anciens textes latins. Et si on ne pense pas aux Mycéniens, aux plus anciens textes grecs. Donc c'est quand même un enracinement fort. De petits royaumes qui étaient un petit peu dispersés en Syrie, qui n'ont existé que pendant un grand siècle, et un petit siècle pour certains, et qui ont été très vite absorbés par l'Empire assyrien, mais qui, grâce à la coutume que tous ceux qui connaissent un peu la Bible connaissent, des Assyriens, de déporter les populations, on connaît par le siège de Samarie et les Samaritains envoyés partout dans le monde, et on installe en Israël des populations qui ne connaissaient pas Yahvé, les Assyriens ont envoyé des Araméens partout au Proche-Orient, et ils ont réussi, et leur culture est devenue dominante. Ce qui fait que cette culture qui avait déjà eu une histoire extrêmement importante au premier millénaire avant Jésus-Christ, avait été même la langue internationale de tout le Proche-Orient pendant une grande période. Dans un de ces endroits où on parlait araméen, Édesse, actuellement Urfa dans le sud de la Turquie, il y a eu au début de notre ère une petite principauté, et c'est dans cette principauté et dans sa culture que s'enracine le monde syriaque et la culture syriaque. Une petite principauté donc où on écrivait en araméen, et les inscriptions que l'on a en araméen de 2e, 3e siècle, c'est du pré-syriaque. On écrivait aussi en grec. C'était une ville qui avait été fondée comme une colonie macédonienne par des soldats d'Alexandre le Grand, qui l'ont appelée Édessa, du nom de la ville d'Édessa en Macédoine. Donc, un très fort ancrage dans la culture grecque aussi. Ancrage dans la culture babylonienne. On y pratiquait, par exemple, le culte de Nabou. Une ville qui était sur la frontière à l'époque entre les empires romains d'un côté et perses, sous avant-partes de l'autre, et qui restait effectivement un endroit de frontière tant que ces deux empires se sont affrontés, c'est-à-dire jusqu'à la conquête arabo-islamique, donc avec une influence perse importante, et aussi arabe, les rois locaux, dont le nom par exemple Abgar, il porte des noms arabes, et la région à l'est de la ville d'Édesse, en Osroène, s'appelait Arabe, et les gouverneurs portaient le titre de gouverneur des Arabes. Donc une ville de culture mixte, très imprégnée de culture classique, mais enracinée dans le monde sémitique et notamment araméen, et qui était donc une ville de frontière, mais aussi une ville sur la route qui allait de la Méditerranée à la Mésopotamie. Donc c'était la route des armées, et Dieu sait qu'Édesse et sa voisine Nisibe ont été souvent l'objet de sièges, mais c'était aussi par là que passaient les marchandises et les idées, parce que les idées et la christianisation est aussi un mouvement de transmission d'un, j'allais dire, patrimoine immatériel, ont passé par les mêmes routes que les marchandises, et c'est souvent les caravanes des marchands dans lesquelles il y avait les missionnaires. Donc c'est de Édesse qu'est partie la christianisation de la vallée des deux fleuves, Euphrate et Tigre, et puis au-delà. Et c'est pour ça que c'est la culture de cet endroit-là qui a été portée un petit peu partout. Culture donc qui s'ancrait dans l'araméen d'Édesse, où a eu lieu la première traduction de la Bible. C'est la seule autre traduction de la Bible depuis l'hébreu, à part la traduction grecque, et qui s'est fait très tôt, avec donc toute une tradition qui veut que, alors je ne dis pas histoire, je ne dis pas légende, je parle de tradition, parce qu'on a du mal à percer qu'est-ce qu'on peut être les faits, mais en attendant, la culture syriaque revendique de s'enraciner dans un monde où, enfin dans une, de trouver sa racine dans une évangélisation qui date du Christ lui-même et de ses premiers successeurs, l'apôtre Adai, envoyé par Thomas dès après la résurrection, et qui aurait évangélisé le royaume de Sroën, donc Édesse, converti le roi, ses nobles, converti la population, créé des églises, créé un clergé, et fait de Édesse la véritable fille aînée de l'église. Voilà, je vais laisser. On a décidé que ce serait plus amusant si nous alternions.
Donc, vous l'avez compris, le volume a une construction qui est d'abord chronologique, mais nous avons souhaité également avoir un certain nombre de chapitres plus thématiques, mettant l'accent sur des éléments qui nous semblaient particulièrement importants de cette culture syriaque. Et deux de ces chapitres sont d'une part l'importance de l'ascétisme et du monachisme, et de l'importance de l'ascétisme et du monachisme pour le deuxième chapitre qui est la littérature, puisque l'essentiel de la littérature syriaque a été produite par des moines qui sont devenus souvent des évêques et des patriarches de leurs églises. Et donc on a une imbrication, si vous voulez, plus grande qu'en monde latin ou grec entre l'église et la production à la fois littéraire et scientifique, puisque ces moines étaient aussi des médecins, des astronomes, des mathématiciens, des philosophes. Ce sont eux qui ont copié les manuscrits, et ce sont eux aussi qui les ont commenté et ont ajouté aux savoirs antiques de nouvelles interprétations, maintenant vivant ces savoirs et les transmettant à leur tour, en particulier au moment de l'islam et de ce que l'on a appelé le mouvement de traduction à Bagdad au IXe siècle, donc transmettant toute une partie des savoirs antiques, grecs en particulier. Mais transmettant également des savoirs venant du monde perse et de l'Inde, puisque c'est au 7e siècle, dans un monastère sur les bords de l'Euphrate, que l'on a la mention pour la première fois en syriaque de l'utilisation des chiffres indiens, donc au moment même des conquêtes arabo-musulmanes. Et donc vous voyez que ce monde est un monde transversal et un monde de contact, Et l'ascétisme, dont vous connaissez sans doute les formes les plus extrêmes qui ont été pratiquées en Syrie, à savoir le stylitisme, les brouteurs, les reclus de toutes sortes à l'intérieur des arbres que l'on appelle les dendrites, ou à l'intérieur de puits ou de grottes ou tout simplement de colonnes. Ces formes d'ascétisme extrême de la Syrie, donc qui ont été pratiquées par des gens qui parlaient à la fois le grec et l'araméen local, peut-être même pas nécessairement le syriaque, et sans doute la forme la plus frappante, si vous voulez, de ces formes premières de retrait du monde. Mais il faut avoir à l'esprit également que se développe très tôt, et sans doute aussitôt que dans le monde égyptien, une forme particulière de retrait, de retrait partiel en tout cas de la société, qui est la forme de ce que l'on appelle les fils et les filles du pacte, c'est-à-dire de garçons et de filles, souvent jeunes, qui étaient tonsurés, qui faisaient vœu de chasteté et qui s'engageaient au service de l'Église. Et ces fils et, des filles, et ces filles du pacte sont une forme très ancienne de proto-monachisme, c'est ainsi qu'on le désigne souvent, de proto-monachisme mésopotamien. Et donc, on a tendance à revoir aujourd'hui notre conception de la naissance du monachisme, puisqu'on n'a pas un seul foyer qui serait le foyer égyptien, qui aurait ensuite gagné les autres régions de l'Empire romain, mais sans doute des foyers multiples qui se sont développés de manière un petit peu différente dans chacune de ces régions, même si ensuite ce monachisme égyptien a servi de modèle pour les monachismes du Proche-Orient, pour la Palestine notamment, et la Mésopotamie ensuite. Et dans le monde syriaque, on a au VIe siècle, dans l'Empire perse, dans ce que l'on appelle l'Église de l'Est, ou l'Église de Perse, c'est-à-dire l'Église qui s'était développée très tôt au-delà des frontières de l'Empire romain, on a une égyptianisation du monachisme, avec la traduction, par exemple, des textes les plus importants et le développement du modèle du monachisme égyptien comme modèle de référence. Mais ce mouvement, si vous voulez, se fait dans un deuxième temps. On a des formes autochtones tout à fait intéressantes qui nous sont révélées par les textes syriaques, produits à la fois dans l'Empire romain et dans l'Empire perse. Et il est important d'avoir à l'esprit cette dichotomie, puisque on a en syriaque deux formes d'écriture et deux formes de prononciation du syriaque, occidental et oriental, qui ne sont pas à proprement parler des dialectes différents, mais qui manifestent au moins une phonologie différente et qui ont été et qui correspondent sans doute aussi aux dialectes parlés, aux dialectes araméens non littéraires parlés dans ces régions. Et des deux côtés se développent des églises qui sont des églises indépendantes, puisque l'église de Perse, dès 410 de notre ère, décide de se doter d'une tête indépendante et a son propre patriarche, qui est appelé le catholicos de l'église de l'Est, dans l'idée de se distinguer de l'église de l'Empire romain, pour des raisons qui sont au départ des raisons d'ordre pratique et idéologique, à savoir qu'il s'agit de montrer qu'ils sont différents des chrétiens sous la domination byzantine, qu'ils sont indépendants de cette église sous domination romaine, et qu'ils en sont donc fidèles d'un point de vue politique au roi des rois perses. Et cela était important pour des raisons de sécurité, tout simplement, puisqu'ils étaient très tôt suspectés d'être des agents de l'empereur Constantin et de ses successeurs du côté romain. Et donc, cette séparation de l'Église de l'Est reposait aussi sur l'idée qu'il était parfois compliqué d'aller se faire ordonner à Antioche ou de faire venir d'Antioche des évêques pour ordonner d'autres évêques dans le monde perse. Et ce n'est que dans un deuxième temps que la séparation de l'Église de Perse s'est faite sur des raisons qui étaient des raisons dogmatiques. Après le concile d'Éphèse, l'Église de Perse a refusé de condamner Nestorius, et c'est la raison pour laquelle ses adversaires l'ont qualifié pendant très longtemps d'Église nestorienne, un terme que l'on hésite aujourd'hui à utiliser, on préfère parler de diphysisme. Et donc, ce monde est un monde double d'un point de vue politique. C'est un monde qui devient rapidement multiple puisque d'autres églises vont se séparer. Et c'est un monde où l'on écrit en syriaque, qui est donc la langue officielle. La langue officielle de culture et la langue officielle de l'Église. On écrit, notamment sous une forme très particulière qui est celle de la poésie. La poésie joue un rôle absolument fondamental dans les églises de langue syriaque, puisqu'on peut tout écrire en poésie, y compris la grammaire. On a une grammaire produite au XIIIe siècle qui est une grammaire métrique. On a bien évidemment des hymnes liturgiques en très grand nombre. Et beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu parler d'Éphrem le Syrien, qui est le poète par excellence de l'église ou des églises syriaques, qui a vécu au IVe siècle et qui est donc antérieur aux divisions ecclésiastiques. Et les poèmes d'Éphrem conservent une très grande modernité par leur dimension extrêmement, extrêmement concise, par la richesse des images. Et donc on a dans ces églises syriaques une tradition théologique tout à fait particulière, puisque la théologie s'exprime par la poésie et non pas par des textes discursifs comme on peut en avoir en monde grec et latin. Et les symboles, les images y jouent un rôle particulièrement important. Et si l'on pense que ces hymnes étaient ensuite chantés dans les églises, et Éphrem est toujours chanté aujourd'hui dans les liturgies des églises de tradition syriaque, de même que Jacques de Sarrougue, ou de même que Narsaï en monde dans l'église de l'Est, cette poésie, si vous voulez, prend une dimension qui n'est pas seulement celle de textes rangés dans des étagères de bibliothèque, mais de textes qui sont vivants et de textes qui entrent en contact, j'allais dire de manière sensorielle, avec les fidèles à l'intérieur des églises. Et donc cette particularité de la tradition syriaque est à noter parce que les images, de même que l'enseignement, se font beaucoup de manière orale, par la performance liturgique, si vous voulez, et par la mise en voix des textes dans la liturgie. Et cela est valable sur toute la période, et on a toujours aujourd'hui, par exemple, pour le temps de Pâques, la mise en scène de petits textes, comme par exemple les poèmes de dispute, hein, qui sont un ancien genre mésopotamien que l'on trouve déjà dans les tablettes d'époque sumérienne. Et ce genre des poèmes de dispute ou de préséance sont restés très vivaces dans la tradition syriaque, le sont toujours aujourd'hui dans les dialectes néo-araméens. Et le lundi de Pâques, par exemple, on met en scène dans les églises de tradition syriaque la rencontre peu amène entre le chérubin chargé de garder le paradis et le bon larron se présentant à la porte pour se faire ouvrir en attendant l'arrivée de Jésus et de ceux qui sont sortis des tombeaux. Et donc, à Alcoche, à Mossoul, ces derniers jours, on a mis en scène, une fois encore, ce poème de dispute entre le chérubin et le larron, aujourd'hui souvent en néo-araméen. Mais cela montre, si vous voulez, la continuité sur le temps très long de tradition mésopotamienne reprise à l'intérieur de la tradition chrétienne. Et c'est sans doute là ce qui fait un des aspects tout à fait originaux et intéressants de cette tradition sur la très longue durée mésopotamienne. Je vais repasser la parole à ma voisine.
Oui, alors une autre particularité que j'avais déjà soulignée des églises syriaques et spécialement de l'église de l'Est a été son côté résolument missionnaire et avec une ampleur pour laquelle c'est unique quand même dans le monde chrétien de l'Antiquité. Missionnaires dans différentes directions. On sait que le christianisme a donc sans doute atteint la vallée des deux fleuves très tôt, mais de là, il s'est répandu, d'abord bien sûr sur le plateau iranien, mais en Asie centrale assez vite. On sait par exemple que dès le début du 5e siècle, les années 400, on est à l'époque de Saint-Martin, il y avait déjà un évêché à Merv, c'est Marie au Turkménistan, et un autre à Herat, en Afghanistan, et qui sont eux-mêmes devenus des métropoles pour une expansion beaucoup plus lointaine. Alors, expansion qui s'est faite sur différentes routes. La route, effectivement, de l'Asie centrale, c'est-à-dire la route de la soie, mais ne transitait pas donc sur la route de la soie que des marchandises ou que de la soie, mais aussi plein de mouvements. Le christianisme, donc, s'y est largement répandu, s'y est répandu pas seul. C'est-à-dire que là, ça a été des régions où les chrétiens ont côtoyé d'autres confessions, notamment les manichéens. L'église manichéenne a été aussi extrêmement missionnaire. Alors, on connaît son expansion depuis la Mésopotamie locale où Mani avait été martyrisé au IIIe siècle, vers l'Égypte où on a retrouvé des documents, parce que c'est en Égypte qu'on trouve des documents d'absolument toutes les traditions, et c'est en Égypte qu'ont été conservés les plus anciens manuscrits syriaques, mais aussi en Afrique du Nord où saint Augustin était très proche de l'église manichéenne, mais aussi donc sur les routes de l'Asie, où on a encore trace de présence de manichéens jusque bien au-delà du Xe, XIIe siècle. Ils ont côtoyé des gens de tradition bouddhiste, ils ont côtoyé des gens de différentes traditions locales, donc ça a été un lieu de rencontre de culture dont témoigne. Alors, c'est vrai qu'on connaît relativement peu, dans la mesure où on a une documentation qui est très kaléidoscopique, très ponctuelle, quand par hasard, à un endroit, émergent des trouvailles permettent d'avoir un certain nombre d'indications. C'est le cas notamment dans l'oasis de Turfan, enfin c'est plus ou moins tout autour du désert de Gobi, hein. Voilà, plusieurs sites où on a retrouvé des manuscrits donc de différentes confessions, dont des chrétiens, des manuscrits surtout dans différentes langues. Alors, il y a eu du syriaque, bien sûr, mais il y a eu aussi, et pour les manuscrits chrétiens, des manuscrits dans d'autres langues, montrant que la culture syriaque s'est répandue bien au-delà de son de la population qui avait été la sienne au départ, notamment dans différentes langues de tradition iranienne, dont le sogdien, dans différentes langues qu'on appelle vieux turc, et en chinois aussi. Donc, il y a des mélanges d'écriture, on écrit une langue avec l'écriture d'une autre. Enfin, donc, on a l'impression qu'il y a eu, dans toute cette Asie centrale, au Moyen-Âge, une rencontre de langues, une rencontre de cultures, une rencontre de traditions qui a été tout à fait importante, et dans laquelle les églises syriaques, plusieurs, mais tout particulièrement l'église de l'Est, l'église de Perse, a joué un rôle éminemment important. L'autre témoignage que l'on a de cette expansion, et qui est absolument extraordinaire, est la fameuse stèle de Xi'an, qui a été retrouvée au XVIIe siècle dans ce qui avait été la capitale de l'Empire chinois au temps des Tang, que ceux qui ont été faire du tourisme en Chine ont peut-être vu, parce que c'est de Xi'an qu'on part pour aller voir l'armée des soldats enterrés, qui a fait quand même aussi, qui est particulièrement connue. Et il y a donc là encore, dans le musée de la forêt des stèles, cette stèle qui avait été trouvée et qui est inscrite en syriaque et en chinois, qui relate l'arrivée du christianisme. Alors, la stèle elle-même date du 8e siècle, mais relate l'arrivée du christianisme en Chine au milieu du 7e siècle, c'est-à-dire grosso modo concomitamment de la conquête arabo-musulmane, et arrivée tout à fait officielle, parce qu'on n'installait pas une nouvelle religion dans l'Empire chinois sans que l'administration et l'Empire soient au courant. Donc, il y a une autorisation officielle d'installation de cette nouvelle communauté religieuse. La stèle donc donne à la fois l'historique de l'arrivée de ces chrétiens et de l'installation de la communauté, donne un premier exposé de la foi chrétienne en chinois 1000 ans avant Ricci. Et c'est un des points qui nous a beaucoup intéressé avec Muriel, l'idée qu'il y a eu cette internationalisation, cette rencontre avec d'autres cultures, que l'on pourrait voir aussi avec l'islam. Dès le 7e siècle, on a des textes chrétiens qui essayent de penser l'islam, un problème qui est quand même éminemment important actuellement, des gens qui étaient loin d'être bêtes et qui ont réfléchi à cette question-là. Et que donc, il y a aussi toute une tradition dont on ferait bien de s'inspirer. Alors, l'histoire de cette stèle, évidemment, ça a suscité en Occident tout de suite une impression forte. Voltaire avait même dit que c'était sans doute un faux jésuite. Ça n'est pas un faux. Et ça révèle aussi, par la liste des gens qui y sont mentionnés, qui pour certains ont des noms bibliques, c'est des noms apportés par les chrétiens, mais dont plusieurs ont des noms qui sont justement des noms sogdiens, des noms iraniens, qui montrent que cette mission a été une mission à rebond. C'est-à-dire que les missionnaires partis de Mésopotamie ont évangélisé des régions d'Asie centrale iranisée, qui elles-mêmes ont porté la mission beaucoup plus loin jusqu'en Chine. Et c'est en cela que j'insistais sur le fait que les églises syriaques et singulièrement l'église de l'Orient a eu très tôt une mission universelle. C'était une première époque de l'expansion en Asie. La deuxième époque a été l'époque mongole, où là aussi l'Asie a été le témoin de transmission dans un sens comme dans l'autre, et où Marco Polo et bien d'autres voyageurs témoignent de la présence d'églises chrétiennes tout au long de la route de la soie. On a aussi conservé un texte syriaque qui relate le voyage de deux moines partis de Pékin, donc de tradition syriaque mais mongole, partis de la capitale, Kandbalik, vers l'Occident pour aller sur le tombeau du Christ, qui ont rejoint la tête de leur empire, de leur église, le patriarche, n'ont pas pu aller parce que c'était des moments où le Proche-Orient était à feu à sang jusqu'à Jérusalem, sont restés, étaient nommés par leur patriarche pour repartir en Chine, ce qui les enthousiasmait modérément parce que la route leur avait semblé quand même vraiment très dure. Et puis, entre-temps, le patriarche est mort et les évêques qui devaient nommer son successeur se sont dit « on a quelqu'un qui est mongol, qui parle le mongol, on a l'empereur mongol ». Bref, l'un des deux a été élu patriarche et sous le nom de Maria Valara, donc Dieudonné si vous voulez. Et il a envoyé son compagnon en émissaire, émissaire du patriarche mais aussi de l'empereur mongol en Occident, et on a ce récit en syriaque du voyage de ce mongol syriaque passant par Constantinople, passant par l'Italie, arrivant à Paris. Il y a une description de Paris au XIIe siècle qui est quand même très intéressante, allant rencontrer le roi d'Angleterre à Bordeaux, etc. Donc il y a une traduction française qui avait été publiée et je vous le recommande de le lire, c'est extraordinaire. L'autre, à la fin de l'époque mongole, ce christianisme en Asie centrale et en Chine a disparu. Mais l'autre voie d'expansion a été par le golfe Persique, où on sait qu'entre le 5e et le 7e siècle, il y avait plusieurs évêchés, où les fouilles archéologiques sur la rive arabique révèlent de plus en plus d'églises et de monastères, où on sait qu'il y a eu, dans cette région qui en syriaque s'appelait le Bet Katraye, le pays des Qataris, avec une expansion de ce pays des Qataris bien au-delà du Qatar actuel, c'est toute la rive occidentale du golfe Persique, mais nombre d'auteurs syriaques sont originaires de là, y compris le grand mystique originaire de là, Isaac de Ninive, dont les œuvres ont été traduites en grec et même en russe, et inspirent les moines du mont Athos. Et par cette route maritime, le christianisme est arrivé jusqu'en Inde du Sud, où il est attesté depuis le début du VIe siècle, où il s'est implanté, où il a sur la côte du Malabar, où il a vécu avec une chrétienté qui dépendait du métropolite de Perse, qui lui-même dépendait du patriarche à Bagdad, à celui-ci qui siphon puis à Bagdad. Ce que note Marco Polo, qui, par son retour par la route terrestre, dit qu'il rencontre des chrétiens qui dépendent du pape de Bagdad. Et ils ne dépendent pas de l'apôtre de Rome, mais de celui de Bagdad. Et ces chrétiens, l'histoire extraordinaire, c'est que ces chrétiens ont survécu là, que les Portugais les ont rencontrés, les ont latinisés, mais à travers une histoire complexe, on a encore, au Kerala, en Inde, une communauté chrétienne de tradition syriaque, forte, vivante, même si elle est très divisée, et dont le nombre des membres est infime à l'échelle de l'Inde, mais correspond à autant que tous les chrétiens syriaques du Proche-Orient. Donc il s'agit effectivement d'une expansion et qui là a été éminemment durable, puisque nous avons effectivement un nombre important de chrétiens au Proche-Orient et des églises dynamiques.
Nous avons des textes qui racontent cette christianisation de l'Inde, et en particulier les actes de l'apôtre Thomas, qui datent du IIIe siècle, et qui sont, si vous voulez, l'incarnation de cette histoire de la christianisation de l'Inde. Nous avons également des lettres des évêques qui nous permettent de suivre le développement de ces missions. Nous avons également des histoires monastiques qui nous racontent comment les moines étaient formés pour la mission, et en particulier formés pour partir dans des régions où le pain et le vin n'existaient plus, où on était dans des mondes où l'on mangeait du riz, mais où on ne cultivait pas le blé. Et donc cela posait évidemment des problèmes d'ordre anthropologique tout à fait particuliers. Et les lettres, par exemple, de Philoxène de Mabougue montrent bien comment il faut s'adapter à la fois à ces tribus turques qui sont christianisées et d'autre part aux tribus arabes, puisque la lettre qu'il écrit sur les tribus turques est adressé à un philarque, c'est-à-dire à un général, plus exactement à un prince des tribus arabes. Donc on est là à la période avant l'islam, dans toute la région du désert syrien, de la Palestine, mais également de l'Arabie, où se sont développés des petits royaumes arabes qui dépendaient ou bien de l'empereur byzantin ou bien du roi de Perse, et qui étaient employés par les deux empires pour garder les frontières. Et donc ces tribus arabes sont rapidement christianisées. Elles sont christianisées dans la tradition miaphysite, c'est-à-dire dans le refus du concile de Chalcédoine, revendique, si vous voulez, cette indépendance dogmatique, mais également ecclésiale, puisque ces tribus demandent l'ordination d'évêques pour elles-mêmes, et donc des évêques de langue syriaque. Et on peut suivre au travers de la correspondance la poursuite, si vous voulez, de la mission parmi ces tribus arabes jusqu'en Arabie du Sud, et des événements qui se passent à Najran, au Yémen actuel, au VIe siècle, donc avant les conquêtes arabo-musulmanes, montrent, si vous voulez, à quel point ces régions faisaient partie de la géopolitique locale, mais étaient aussi des terres de compétition entre les différentes églises, puisque à Najran, au Yémen, étaient présents des Éthiopiens, étaient présents des membres de l'église de Perse, étaient présents des membres de l'église miaphysite, que l'on appelle aussi syriaque orthodoxe. Et donc, ces églises essaient de gagner à leur propre confession les différentes tribus de la région. Et on a évidemment un judaïsme également très fort, avec un roi juif qui prend le pouvoir au VIe siècle et massacre les chrétiens. Et le récit, si vous voulez, de ces massacres de Najran remonte jusqu'en Syrie, le long des réseaux monastiques miaphysites de langue syriaque. Et donc, on a là, si vous voulez, un aspect tout à fait intéressant de ces missions. Et quelque chose à garder à l'esprit quand on parle ensuite de la période arabo-musulmane, puisque bien évidemment l'Arabie n'était pas un désert vide. Les milliers de graffitis que l'on y a trouvés dans toutes sortes de langues et d'écritures montrent que évidemment c'était un endroit qui était parcouru par les caravanes. C'était des endroits où il y avait également des capitales constituées de camps, de tentes, et on a le terme campement en syriaque pour les désigner. On y avait des évêques, des prêtres, des moines, des diacres et des communautés chrétiennes, des monastères qui ont été fondés en Arabie. Et on avait surtout des discussions d'ordre dogmatique extrêmement pointues sur des points qui touchaient par exemple au trithéisme, qui touchaient à la question des natures du Christ et notamment à la manière dont il fallait comprendre la crucifixion, autant d'éléments que l'on retrouve d'une certaine manière dans le Coran, qui reprend un certain nombre de ces alors ne reprend pas ces discussions, mais montre une certaine connaissance, ou en tout cas une tentative de répondre à des questions qui étaient posées à la période de pré-islamique dans cette région, dans les communautés chrétiennes. Donc c'est quelque chose de très important. Le christianisme syriaque est sans doute celui qui a été le plus en contact avec l'islam, puisque les communautés se trouvaient dans les zones de ce que l'on appelle les conquêtes arabo-musulmanes. Et l'arrivée des Arabes dans la région n'a pas marqué la fin du christianisme syriaque, n'a pas marqué de rupture visible. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité faire une fin de chapitre qui aurait correspondu au 7e siècle et à la période des conquêtes. Parce que les conquêtes sont signifiantes d'un point de vue politique, bien évidemment, puisqu'elles marquent la fin de l'Empire romain d'Orient et la fin de l'Empire sassanide, mais elles ne marquent pas du tout la fin de ces cultures locales, et certainement pas celle de la culture syriaque, puisque, Françoise le rappelait, c'est à partir du 7e siècle que l'on trouve que la mission s'intensifie, que sont actifs les monastères du pourtour du golfe arabo-persique, que sont actifs les membres des monastères de Syrie, en particulier et de Mésopotamie du Nord. Au moment de la conquête perse puis de la conquête arabo-musulmane, on retraduit par exemple l'Ancien et le Nouveau Testament du grec en syriaque. Alors on le fait à Alexandrie, on le fait à Chypre, mais on le fait en syriaque. On traduit également dans ces périodes-là des textes de médecine, des textes d'astronomie, on les commente. Et donc la vie intellectuelle, de même que la vie ecclésiale, ne s'arrête absolument pas. On a beaucoup parlé, bien évidemment, des mesures des mesures prises par les nouveaux pouvoirs musulmans à l'égard des non-musulmans, justement. Mais c'est quelque chose qui se développe en réalité sur la longue durée, qui est en place au 9e siècle, mais qui se met en place très progressivement. Donc on a entre le 7e et le 9e une période où à la fois les églises se définissent les unes par rapport aux autres, finissent de se définir les unes par rapport aux autres et se définissent par rapport à ce nouveau pouvoir, et une période aussi où l'islam se définit lui-même de manière progressive, et les derniers travaux montrent bien à quel point là aussi ce qu'on appelle souvent pour le judaïsme et le christianisme la séparation des chemins ne se fait pas du jour au lendemain, et on est dans des périodes où l'on réfléchit à la fois sur les contenus théologiques, où l'on réfléchit sur la langue, où l'on est établit des instruments pour tâcher de se parler et de se comprendre, et où l'on transmet dans des mondes très multireligieux et multilingues les savoirs venus de l'Ouest, de la Grèce, mais aussi de l'Est, de la Perse et de l'Inde. Et donc la période du 9e siècle à Bagdad est une période particulièrement riche, où des savants d'origine zoroastrienne, juive, chrétienne, dans ces différentes dénominations, et musulmans travaillent ensemble à la traduction et aux commentaires. Et ce n'est que plus tard qu'interviennent les périodes vraiment difficiles pour les églises syriaques, à la période mongole, qui est une période très difficile pour toute la région, pas seulement pour les chrétiens, puisque les Mongols exercent une violence très forte à l'égard des villes et à l'égard des différentes populations, y compris musulmanes. Et cette, à ce moment-là quand on assiste à un premier repli et que ces églises vont trouver refuge dans des zones montagneuses comme le Liban ou en Iran dans la région du Hakkari. Donc on a là véritablement une période de repli mais qui n'est pas liée aux conquêtes arabo-musulmanes, contrairement à l'image que l'on a souvent de l'histoire de la région. Et c'est cela aussi que nous voulions essayer de montrer, c'est-à-dire comment cette histoire politique de la région ne recouvre pas l'histoire culturelle et religieuse complètement. Et si vous voulez, nous avons essayé de réintroduire un peu de complexité dans une présentation qui est souvent un peu trop simple de ces périodes et de ces régions. Et on peut voir, si vous voulez, une sorte de renaissance à des périodes plus tardives de ces églises syriaques, avec une réflexion sur leur identité, sur leur langue, à partir du XVIe siècle, et puis surtout au XIXe siècle, où là, on va essayer de retrouver dans une histoire très ancienne une forme d'autochtonie, et donc on va avoir des églises qui vont aller chercher dans l'histoire assyrienne des racines, des églises qui vont se désigner elles-mêmes par exemple comme des églises assyriennes et chaldéennes. Et ces églises sont toujours vivantes aujourd'hui. L'église chaldéenne est la branche qui s'est rattachée à Rome. Et donc, il faut voir cette histoire, si vous voulez, à partir de la période moderne, comme une nouvelle histoire en contact cette fois avec davantage le monde latin. Et c'est vrai à partir de la période médiévale, mais plus particulièrement encore à la période moderne, avec l'arrivée des missionnaires latins, et avec une nouvelle histoire qui se joue à ce moment-là, où le syriaque reste la langue liturgique et la langue littéraire, mais où les araméens modernes prennent une place de plus en plus grande, sont de plus en plus écrits, deviennent, si vous voulez, la langue vernaculaire, mais aussi la langue de l'Église. J'évoquais tout à l'heure les mises en scène de poèmes qui se font beaucoup en langue, dans des araméens modernes, différents en Irak, évidemment, et en Turquie, avec des milieux de développement de cette nouvelle histoire tout à fait différents. Et bien évidemment, aujourd'hui, un prolongement dans les diasporas, à la fois en Europe, mais également aux États-Unis, le patriarche de l'église ou le catholicos de l'église assyrienne s'était réfugié aux États-Unis, à Chicago, où les communautés sont particulièrement nombreuses, mais également en Australie ou en Suède, où se trouvent de très nombreuses communautés syriaques orthodoxes notamment. Et donc, d'une certaine manière, si vous voulez, cette histoire qui avait commencé aussi par des exils et des passages de frontières multiples entre le monde perse et le monde romain s'est poursuivie jusqu'à la période actuelle par des exils. Et la question est de savoir comment cette situation dramatique, qui n'est pas la première, qui a jalonné toute l'histoire de ces églises des zones frontières, va se poursuivre, et comment ces églises et ces communautés vont trouver, si vous voulez, la force de faire durer cette histoire et cette langue comme elles l'ont fait sur la très longue durée. Et donc, c'est un petit peu à cette question qu'elles sont confrontées aujourd'hui, de savoir comment faire face à ce qui, malheureusement, n'est pas une nouveauté pour elles, mais qui est une série de périodes de destruction, de massacres et d'exil, mais peut-être pas dans les proportions qui sont celles d'aujourd'hui. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je remercie Dominique pour sa introduction et je voulais juste rappeler qu'il est un des piliers de la Société d'études syriaques depuis sa création. Donc il a grandement contribué.
Il a grandement contribué à la Société d'études syriaques. Voilà, donc je vais présenter maintenant Alain qui va répondre, va être répondant en somme, comme moi ensuite. Alain Desremaux, directeur de recherche émérite au CNRS, a eu un rôle fondateur décisif, non seulement pour la société d'études syriaques que j'ai signalé, mais aussi pour la collection de traductions des apocryphes chez Brepols, donc un certain nombre d'apocryphes syriaques, en particulier la doctrine d'Adai, et pour la collection recueil des inscriptions syriaques de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Vous voyez, une belle panoplie, une belle trilogie. Il a énormément travaillé lui aussi sur les manuscrits et les inscriptions. Il a commencé très tôt un lien fort avec les pays et les églises syriaques, car il a à peine 22 ans quand il part pour 2 ans de coopération au séminaire de l'église syro-catholique de Charfet, au nord-est de Beyrouth. Et c'est là où, comme le dit Françoise Briquel à son propos dans le livre de Mélange sur les pas des Araméens chrétiens, en son honneur, il se convertit à une nouvelle culture. Ce lieu, donc, il a retrouvé il y a 12 ans, je crois qu'il avait sans doute passé entre deux, mais en tout cas, il y a 12 ans, pour faire le catalogage des manuscrits avec Françoise Muriel et aussi André Bingeli. Voilà, donc ce travail énorme d'Alain pour le Syriac. Donc nous allons l'écouter maintenant en répondant sur cet ouvrage.
Merci.
Cette invitation.
C'est, là, c'est rouge. Oui, c'est rouge. Approchez-vous, oui. Approche-toi.
Voilà. Ah oui, celui-là marche. Bien. Un beau livre, assurément, que vous avez bien décrit. Audacieux, il faut le dire, car il balaie sur des milliers de kilomètres et plusieurs dizaines d'empires et de principautés à travers des dizaines de langues sémitiques indo-européennes et asiatiques. 2000 ans d'histoire et même une histoire enracinée dans le premier millénaire avant Jésus-Christ, tu l'as rappelé. Il fallait le faire avec une présentation historique littéraire d'histoire des idées, d'histoire des sciences, d'histoire de l'exégèse, d'histoire des institutions, d'histoire des églises, des liturgies, et en rassemblant tout l'acquis accumulé depuis des siècles par des savants orientaux et occidentaux. C'est très réussi. Un déroulement, une mise en chapitre fort bien pensée et dans une très belle mise en page où iconographie et large citation, l'avait voulu, accompagnent judicieusement et éclairent le discours de façon exemplaire. Un beau livre, où il y a quelques coquilles, ça, il faut que je le dise, parce que si je vous fais que des compliments, d'ailleurs vous allez croire que je ne l'aurais pas lu à ce moment-là, mais donc oui, il faudra corriger, le Christ n'est pas un magicien dans la doctrine d'Adai, c'est un médecin, une position théologique très importante pour l'église syriaque. Voilà, puis il y a quelques coquilles que vous corrigerez dans la deuxième édition, qui en a certainement une, parce que ce livre est très très bien. Alors, Il m'a réveillé un souvenir historiographique, celui de Jean-Claude Picard, malheureusement décédé trop tôt, un grand ami, quand il était chercheur au CNRS et chargé de conférence à l'OPHE, à la section des sciences religieuses que tu honores, Muriel, dans le séminaire dirigé par Pierre Joltrain sur les origines du christianisme. Il nous avait présenté une brillante synthèse sur l'œuvre d'Ernest Renan dans son contexte historiographique, en essayant de comprendre un des ressorts des recherches de Renan sur les origines du christianisme et la part prise par les peuples sémitiques dans l'histoire de la civilisation. C'est assez costaud. Vous avez reconnu ces thèmes majeurs, évidemment, de la pensée de Renan. Et Jean-Claude Picard, pour résumer un peu en raccourci, j'espère pas trop abrupt, proposait que Renan voyait la réussite du christianisme comme une synthèse de l'esprit sémitique, avec sa poésie, ses mythes et de la rationalité grecque, avec sa philosophie et ses sciences, d'un côté et de l'autre. De fait, de son discours d'ouverture du cours de langue hébraïque, chaldaïque et syriaque au Collège de France en 1862, Renan disait que l'œuvre propre de la race sémitique, c'est d'avoir apporté au monde la religion. C'est le vocabulaire de l'époque. Donc,
on sentait que pour lui, la synthèse de la religion sémitique et de la rationalité grecque était le fondement du christianisme. L'impertinent Picard décelait, je pense non sans de sérieuses raisons, que cette synthèse chrétienne était pour Renan celle de l'Occident et spécialement de la France, à l'époque en pleine situation de conquête coloniale. Renan, qui connaissait fort bien le Syriaque, qui avait été le premier à publier les inscriptions syriaques du Liban, n'avait pas encore lu le livre de Françoise et de Muriel. Sinon, il aurait été frappé parce que j'y ai lu au début, quand elles affirment dans une jolie expression que les Syriaques ont fait leur miel de leurs racines sémitiques et grecques. Bref, soyons lapidaires, ce sont les Syriaques qui ont fait la synthèse. J'ajouterais, et qui l'ont porté ailleurs, comme vous l'avez dit, et enrichi d'autres mondes indo-iraniens et asiatiques. C'est pas commun. Et cette magnifique aventure humaine reste largement ignorée de notre monde occidental, comme vous le dites. Or, c'est une évidence maintenant que son apport est capital, oui, c'est vrai. Alors, une réflexion historique à ce sujet. En effet, l'ouvrage montre très bien que la culture syriaque, tout au long de son histoire, était évidemment de façon diverse selon les contextes, les lieux, est une culture dans des contextes cosmopolites et a toujours vécu en métissage culturel et religieux dès sa naissance. Vous reconnaîtrez des expressions que j'ai prises dans votre livre. Après avoir nommé les diverses populations, les nombreux dieux, divinités sémitiques, les dieux grecs, la mythologie, le judaïsme, puis le manichéisme, l'ouvrage dit, page 37, c'est dans le paysage culturel d'une région de carrefour, confluent de multiples influences, que le christianisme araméen syriaque est né. De toute récente découverte à Édesse, aujourd'hui Urfa, en Turquie du Sud-Est, renforce cette affirmation. On voit dans un tombeau traditionnel une mosaïque chrétienne inscrite selon la vieille formule funéraire araméenne locale, mais avec une croix, au milieu du IIIe siècle. En tout cas, c'est ma certitude. La foi syriaque s'exprime simplement, déjà, sans problème, il n'y a pas des persécutions, de troubles, des problèmes. C'est un citoyen d'Édesse qui est devenu chrétien et enraciné dans le milieu tel qu'il est. Il a mis sa croix dans son milieu. Ensuite, j'étais frappé, page 102, sur la culture du savoir, un très beau chapitre, très bien nommé, je trouve. La littérature syriaque s'est épanouie dans un contexte multilingue et multireligieux sous différents pouvoirs politiques. C'est des phrases très significatives, je trouve. Belle leçon. L'histoire du christianisme syriaque pourrait nous aider à penser la diversité et la richesse des apports culturels multiples dans un monde tenté par l'uniformité linguistique et économique. Or, selon votre heureuse formule, page 108, la culture des savoirs syriaques, c'est une mémoire à la fois locale et universelle. Et j'invite vos lecteurs à méditer, page 103, une très belle page sur l'activité de traduction. Ça joue un très grand rôle, évidemment. J'aimerais que certains scientifiques cessent de tenter de jargonner dans une prétendue langue unique, et s'astreigne à la traduction par respect et avantage des savoirs pluriels. Ça pourrait être une belle leçon. Bon, mais ça, c'est une idée, un dada. La troisième idée qui m'est venue en le lisant, c'est que des découvertes modernes m'ont rappelé une réflexion technique sur la culture syriaque. La science progresse et la connaissance collective est œuvre réjouissante et bienfaisante. Françoise Briquel et Chatenet et Muriel Debier sont particulièrement exemplaires de ces avancées où l'esprit associatif, tu as nommer gentiment, Dominique, la Société d'études syriaques. Si, je crois que c'est un très bel exemple. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, heureusement. Par exemple, je voyais récemment des travaux de l'Université Goethe de Francfort. Heureusement qu'il en reste encore un peu en Allemagne. Le partage des idées, le débat sérieux et amical sont le bonheur des chercheurs et le service du patrimoine de l'humanité. Cette recherche continue de s'effectuer selon les meilleures méthodes de la philologie, avec ses traditions, et c'est très traditionnel, c'est traditions anciennes, que de vieux livres nous utilisons encore, et que nous recherchons pour nos travaux, que nous utilisons. Cette recherche traditionnelle, donc philologique, a su, dans notre domaine des études syriaques, intégrer des techniques modernes en évolution rapide, en archéologie, épigraphie, codicologie, notamment grâce à des outils informatisés, numériques, optiques, photographiques. Ainsi, là, ça me permet de soulever un petit point. Quand vous parlez de l'Estranghella, cette magnifique écriture du Syriaque, qui apparaît datée en 411, et que nous ne savons rien de son développement jusqu'au 5e siècle, je pense maintenant que grâce aux toutes récentes découvertes à Edesse, justement, toujours le centre, on peut aujourd'hui répondre à ce questionnement que nous avons si souvent discuté et qui a fait l'objet de plusieurs articles, notamment de Françoise, mais également avec notre collègue John Healey, britannique. On fait en effet très bien le lien entre les premières écritures édesséniennes du 1er siècle et les Stranghella du 5e, en passant par les mosaïques du 3e siècle. Autre exemple, justement, de ce remarquable enracinement et continuité. Un autre apport, celui de la découverte d'un fonds manuscrit exceptionnel s'adjoignant de nouvelles technologies de lecture. Je veux parler du nouveau fonds du monastère Sainte-Catherine du Sinaï, qui devrait éveiller l'attention publique au moins autant que Qumran pour ce qui concerne le monde juif, car c'est une très grosse découverte. Un palimpseste a révélé, sous un manuscrit syriaque melkite, daté de 933, un ancien manuscrit syriaque d'écriture melkite également, antérieur d'au moins un siècle. La datation du syriaque melkite dont vous parlez a donc progressé. On continue à faire des découvertes dans la culture syriaque. Alors, j'ai encore un petit moment. Tu m'arrêteras si... Après cette vaste histoire qui est partie d'un petit protectorat romain de Mésopotamie, dont les hommes ont parcouru 20 siècles, d'ouest en est, jusque dans les lointains de l'Asie centrale, de l'Inde et de la Chine, qui ont vécu sous les empires et royaumes romains, perses, arabes, kurdes, croisés, turcs, mongols, qui ont su nous contacter au Moyen-Âge, qui ont contribué à notre renaissance européenne, qui ont vivifié les études bibliques fondamentales en Europe, dont la vieille langue restée classique a une longueur de vie deux fois plus que celle du français, est l'un des fondements de notre savoir philologique. Qu'en subsiste-t-il? L'écho de l'appel de Rabelais dans la bouche de Gargantua à apprendre la langue chaldaïque n'est toujours pas vraiment entendu à l'université française. Et c'est seulement il y a peu que, c'est vrai quand même, il y a pas longtemps, que la collection sur syriaque comprend des volumes syriaques. Mais, comment ? J'ai pas dit source chrétienne ? Ah, source chrétienne, pardon. Ah oui, les volumes rouges de source chrétienne qui sont vraiment, vraiment importants pour nous. Mais le travail qui est fait pour cela, je le dis évidemment devant Dominique et sous son contrôle, est de toute première importance. Il n'a pas besoin de persuasion, lui, pour... sur l'actualité des pères et des auteurs syriaques. Mais je vous propose, pour achever un peu en méditation, un morceau admirablement choisi dans le volume de Françoise et Muriel, traduit par le père Moutard, un de vos confrères jésuites, Paul, je crois. Texte de Jacques de Sarrougue, écrit il y a 1500 ans. Un texte que, si j'avais été président de la conférence des évêques de France, j'aurais lu avant-hier au président de la République. Il est page 155 du... Vous le méditerez ce soir. Exil, combien amers sont tes suites dans la santé, la maladie et jusqu'à la mort. Sur tes routes, la persécution, la peine, les vexations, la faim et la soif, la fatigue, l'opprobre et la menace. Les duretés de visage et de parole blessent cruellement le cœur. Celui qui t'aime n'a trêve ni repos. Lorsque les flots qui font chavirer t'atteignent, il part, il va. Et quand d'autres flots le meurtrissent, il part encore. Et tout au long de ses journées, il est ballotté par toutes ces calamités. Lugubre, sombre, hurlant de douleur par les rues. Il a sa vie en horreur, son cœur s'épouvante. Il se hait lui-même, il se tourmente, se demandant où s'installer, où se reposer, et qui lui fournira le pain de la journée au nom de notre Seigneur. Qu'il pleure sur moi ceux-là dont sont morts les bien-aimés par les chemins et les séjours de l'exil. Ceux-là savent composer des complaintes sur les expatriés qui sont frappés par la maladie, étendus par les chemins, de telle sorte qu'ils n'ont près d'eux personne de leur famille ni de leur parenté. Un évêque, il y a 1500 ans. Je confie soin de le transmettre au président de la République, au théologien du Centre Sèvres. J'ai lu récemment, tout juste sorti, Véronique Albanel a fait un très beau texte de page qui rejoint ce sujet dans le dernier numéro des études. Alors, je vais finir par une réflexion, puisque j'ai atteint un petit truc politique, je finirai aussi par une réflexion politique, mais qui concerne nos sciences. L'actualité de ce texte est brûlante, et nos amis syriens et irakiens peuvent en témoigner. Je dirais que l'actualité des études syriaques se manifeste vivement aujourd'hui. Soyons pas pessimistes, parce qu'il y a un vrai renouveau et une jeunesse réconfortante dont on a des figures éminentes dans la salle, bien qu'il demeure évidemment des freins importants qui justifient le sous-titre du livre « Sur la route d'un christianisme oublié ». Et pourrait-on dire d'une culture oubliée ? Les études syriaques n'ont certes pas été délaissées en Europe. Alors, les grands noms ne manquent pas dans les études syriaques, orientaux. Hein, je les cite parce que les orientaux, on oublie qui sont les grands savants syriaques, Assemani, Al-Ahmani, Adaïcher, par exemple. Puis les occidentaux, il y en a pas mal quand même, allemands, français, anglais. Bon. Mais je dirais, nous sommes témoins directs, Françoise, Muriel et moi, que des jeunes chercheurs honorent la recherche, souvent par une compétence de très haut niveau. Je veux le dire, qui me rend admiratif et qui me fait penser que je dois recommencer mes études syriaques, sinon sous leur direction, mais au moins sous leur monitorat. Bon. Mais ça, c'est un peu tard. Mais du point de vue institutionnel, nos sociétés d'Europe doivent se préoccuper de l'enseignement et de la diffusion du savoir de la culture syriaque, qui n'a jamais fait l'objet d'un même traitement universitaire que le grec et le latin, ni même l'hébreu, ni l'arabe, alors qu'elle est une composante majeure de nos sources culturelles, quand même. Françoise le disait. Alors, je me souviens, un jour, au Comité national de la recherche scientifique, la présidente de notre commission s'était écriée en souriant, en me regardant. « Ah, des remous, vous voudrez que tout le monde fasse du syriaque. » Formule est rapide. Notre souhait, je peux dire notre, c'est que tout le monde puisse faire du syriaque à l'université et pas seulement à l'EPHE et au CNRS. la tâche est encore plus urgente quand on considère qu'en Europe, il y a eu des mesures drastiques pour des raisons financières et comptables, de rentabilité. En tout cas, je joins ce vœu au texte de Jacques de Sarrougue et l'adresse à nos dirigeants.
Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai découvert ce texte très émouvant de Jacques de Sarrougue, et surtout avec cette dimension concrète de quelqu'un qui a vraiment vécu cela. On le sent de l'intérieur. Alors, je voudrais faire une intervention que je vais abréger un peu. Je m'aperçois que j'étais un peu ambitieux. En commençant par une citation de Isaac le Syrien, Isaac de Ninive, originaire du Beit Katraye, qui a été évoqué tout à l'heure, où il dit « La sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est Dieu lui-même. » Et on peut dire, quand il prononce ces paroles, peut-être à Ninive, donc à Ninive en face de Mossoul, et sur la couverture, vous voyez Jonas en train de dormir en face de la ville de Ninive, précisément, en train de dormir sous son ricin qui n'a pas encore séché. Donc, qui est encore comme une vigne florissante pour l'instant, avant que le petit vermisseau le mange et le fasse mourir. Du moins le ricin, pas Jonas. Voilà, la sagesse, c'est Dieu lui-même. Eh bien, je dirais, ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre, c'est ce travail de l'intelligence pour la vie, la survie, et le rayonnement de cette communauté. J'ai pris trois points que j'aborderai rapidement. Le premier, c'est la tradition écrite qui est en fait le support de la fragilité de la situation des chrétiens. C'est cette tradition écrite, et le livre souligne bien qu'elle est antérieure, c'est-à-dire qu'à Édesse, il y a une tradition d'archives, et cette tradition d'archives, eh bien, les chrétiens vont s'appuyer pour diffuser dans cette langue syriaque, ce qu'ils ont reçu. Et cette force du monde syriaque, elle fait penser beaucoup à la Bible, parce que rappelez-vous aussi, Jérusalem, le temple, tout est détruit en quelque sorte, et pourtant, la Bible conserve cette force à travers le temps. Et on peut comparer tous ces manuscrits, tous ces auteurs comme ces capacités de survivre par un travail de sagesse, par un travail d'intelligence. Je trouve que le livre le met remarquablement en valeur. Donc, premier point. Mon deuxième point est que c'est la force de la vie monastique. Et là aussi, je ferai un rapprochement qui m'a énormément frappé, ayant eu l'occasion de visiter il n'y a pas très longtemps les monastères égyptiens. C'est que cette culture écrite, finalement, en prenant le modèle, il est vrai, des moines égyptiens, elle se transmet par des bibliothèques, par des monastères, par des échanges de lettres. Et elle va être, grâce à ça, elle va durer à travers le temps. Et c'est vrai qu'on sent que ce monachisme est comme la colonne vertébrale de ce christianisme syriaque, et aujourd'hui qui existe encore dans ces monastères, donc qui ont subi les assauts de Daesh. Donc c'était ce deuxième point. Et le troisième point, un point qui m'a beaucoup préoccupé à la lecture de ce livre, c'est en fait le rôle des divisions. On ne peut pas aborder le monde syriaque sans découvrir cette souffrance. Peut-être, ça m'a frappé à la lecture du livre, en découvrant que l'Inde, où je dois aller en septembre au colloque syriaque, eh bien, dans le Kerala, il n'y a pas moins de 5 églises Malankar et Malabar. Et on peut dire en première vue que c'est un monde divisé. Eh bien, en fait, on peut le voir avec un point de vue différent. Et c'est pour ça que je voudrais rappeler qu'un théologien protestant américain a eu le génie de faire le rapprochement entre la floraison des communautés religieuses, des communautés de religieux, des ordres monastiques, etc., dans le christianisme, en particulier le catholicisme, avec la multiplication des églises dans le monde protestant. Le monde protestant connaît des revivals, donc ils vont relancer en quelque sorte la foi, et on peut dire, c'est pas pour dire que les les chrétiens syriaques sont protestants, mais qu'il y a un dynamisme extraordinaire dans ces confrontations. Alors, parfois, il faut bien le reconnaître, elles ont un côté polémique et parfois même, je crois qu'il est arrivé qu'elles soient violentes. Mais n'empêche que on sent, ça m'a beaucoup frappé à la lecture d'un remarquable ouvrage là de, sur Philoxène de Mabouk, qui est un militant de son église, eh bien combien ces confrontations sont le lieu d'une fécondité. Et donc le livre qui parle de toutes ces communautés et n'en privilégie aucune, met en valeur justement comment ces frictions, en quelque sorte, ces confrontations devant le pouvoir musulman, en particulier on est choqué parfois de se dire mais qu'est-ce qu'ils font à chercher à ce que le pouvoir arabo-musulman arbitre entre eux, eh bien en fait crée une force théologique extraordinaire. Voilà un petit peu les points que je voulais souligner et que met remarquablement en valeur ce travail. Alors, je dirais peut-être pour conclure sur ce livre que nous présentons ce soir, qu'il se lit avec énormément de facilité. Et en particulier, il y a un point que je voulais souligner, c'est que je ne suis pas arrivé à distinguer la plume de Françoise et la plume de Muriel. J'ai cherché, bon, on peut le deviner par rapport au sujet, mais la critique interne donne peu d'éléments. Donc vous pourrez deviner, peut-être qu'elles répondront. Elles répondront, mais c'est toujours un style clair et surtout qui n'est pas pédant, comme vous avez vu, et en particulier le livre, non seulement par les illustrations et par les citations de texte, mais aussi par un glossaire, permet de s'y retrouver dans pour comprendre ce qu'est la différence entre le monophysisme et le miaphysisme, qui n'est pas une évidence, mais qui est très bien expliqué dans le livre. De même, la bibliographie qui a volontairement été sobre et donne vraiment les ouvrages importants. Mais comme il est temps de passer aux questions, je voudrais commencer par une question toute simple, mais finalement je me suis dit, est-ce que je vais la poser, est-ce que je ne vais pas la poser? Qu'est-ce qui vous a, donc Muriel et Françoise, qu'est-ce qui vous a le plus attiré, intéressé, touché dans le monde syriaque? Voilà, pendant que les autres préparent leurs questions, peut-être on peut leur laisser le temps de réfléchir. Donc vous pouvez vous-même aussi fourbir vos questions, on va faire passer. Oui, Michel, merci Michel. On va faire passer un... Mais voilà un petit peu ce que... La question que je voulais poser, parce que donc il y a, je dirais, par la rigueur scientifique, un tel équilibre entre les différents éléments. Qu'est-ce qui, enfin, je dirais, c'est pas la question de la vocation. J'ai parlé un peu de conversion tout à l'heure, mais il y a un peu une vocation au monde syriaque que vous avez réalisé tous les trois, mais toutes les deux en particulier dans cet ouvrage. Et c'est un petit peu qu'est-ce qui a fait le tilt en quelque sorte. Et donc, il y a été un peu l'intuition de jeunesse, puisque vous travaillez depuis pratiquement, j'allais dire toujours, enfin, en tout cas, depuis très tôt dans votre existence, pas seulement Alain, mais Muriel et Françoise. Qu'est-ce qui a touché, a attiré, vous a fait pencher de ce côté-là? Voilà.
Je pense que le syriaque est un peu pour moi un accident de la vie, mais je suis historienne, j'ai commencé comme une spécialiste de l'Antiquité, et même d'une antiquité nettement antérieure au syriaque, et donc avec l'envie d'aller un petit peu vers l'Orient, c'est-à-dire que la Grèce, ça me semblait déjà mieux que le latin, et puis d'aller très vite un petit peu plus à l'Orient. Donc j'ai commencé plutôt par travailler sur le monde biblique et apprendre l'araméen, mais l'araméen biblique, l'araméen plus ancien. Et puis, bon, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler, de postuler à la Bibliothèque nationale, et où on m'a confié le catalogue des manuscrits syriaques, ce qui était effectivement un peu un pari un peu affolant, parce que je n'avais jamais travaillé sur les manuscrits, je ne travaillais pas sur les chrétiens, et je ne connaissais pas le syriaque. Bon, je me suis dit, ce sera toujours plus tranquille que des élèves de collège, donc j'ai pris. je veux dire, ce que je n'attendais pas, c'était que je me suis passionnée. Et je me suis passionnée, je pense que bon, c'est, le travail sur les manuscrits m'a passionnée, parce que d'abord, ce sont des documents authentiques, où on voit quelque chose qui a été écrit par quelqu'un il y a 500, 1000 ans. On a les colophons où le scribe dit, ben voilà, j'ai écrit en telle année. J'ai, par exemple, je me souviens d'un des manuscrits de Paris où le copiste disait, je finis ce manuscrit dans la peine parce que mon frère est mort hier. Bon, voilà, on touche une humanité que je n'attendais pas à toucher dans les manuscrits, et que j'en touchais aussi après dans les inscriptions. Donc c'est vrai que je suis sans doute quelqu'un qui a une vision très, enfin, qui a été intéressé d'avoir un contact comme ça avec des communautés pauvres, en sens qu'elles n'ont jamais été au pouvoir, qu'elles n'ont jamais été proches du pouvoir, enfin bon, toujours avec une distance. Pardon ? Non, mais elles ont pu être proches du pouvoir, mais en étant toujours quand même dans une situation de minorité, dans une situation de décalage, et qui ont produit ces résultats concrets et assez magnifiques. Donc, voilà, mon premier contact a été extrêmement concret, et voilà, je crois que ça continue à être ce qui me passionne le plus.
Dans mon cas, je peux dire que le CIREC a été une révélation, puisque j'avais travaillé sur une révélation, une apocalypse, l'apocalypse du pseudo-méthode, qui est une apocalypse produite en syriaque au lendemain des conquêtes arabo-musulmanes. Et j'avais travaillé sur la version grecque, puisque j'ai une formation de lettres classiques et que j'avais suivi des cours de patristique grecque et latine, par exemple. Et j'ai découvert ce texte qui avait été traduit du syriaque. C'est comme ça que j'ai commencé le syriaque. Et ce qui m'a intéressé, c'est précisément ce décalage dont parlait Françoise, c'est-à-dire d'une culture qui n'est pas la culture classique, qui est une culture des marges, qui est une culture des rencontres et des contacts, à la fois interreligieux, interlinguistiques, dans une variété de contextes politiques. Et c'est cela, je pense, qui m'a attirée au premier chef, c'est-à-dire dans ce décalage par rapport à la culture qui est généralement la nôtre en Europe, et la découverte et la mise au jour progressive d'une voie un peu différente. Pas nécessairement en syriaque. Hein.
Vous nous faites une révélation d'une tradition dont vous dites qu'elle est vivante, mais je suis un peu étonné, si elle était vivante, cette révélation viendrait de l'intérieur. Qu'en est-il donc de la transmission intellectuelle à l'intérieur de cette tradition, comment se fait-elle ?
Alors, il y a eu une transmission qui s'est toujours faite, plutôt à l'intérieur de l'Église, au sens même institution. C'est-à-dire que longtemps, les érudits ont été effectivement les moines et les dignitaires de l'Église, et ça jusqu'au XXe siècle, et qui ont très vite essayé d'utiliser tout ce qui pouvait être les moyens modernes. Un cas que je trouve particulièrement frappant, c'est le moine Moïse de Mardine, qui a été envoyé par son patriarche depuis le Tour Abdin dans les montagnes de l'est de la Turquie. C'est pas des maronites donc c'est orthodoxe, envoyé dès le début du XVIe siècle pour imprimer en Occident un évangile syriaque. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que au fin fond de ces montagnes, on savait qu'il y avait une nouvelle technologie et qui pouvait être utile. Et ça, j'allais dire, continuer comme ça, avec des orientaux qui ont été des grands érudits, des profonds érudits, à la fin du XIXe siècle, au XXe siècle. Sur la période très contemporaine, ce que je trouve très frappant, c'est tout le travail qui se fait dans cette tradition en diaspora. Alors là, il s'agit de gens nouveaux. C'est des, pour le coup, beaucoup des laïcs qui sentent que l'exil est mais une menace particulière sur leur culture, qui s'était transmise parce qu'on parlait dialecte à la maison, parce que voilà, et que ça dépend d'eux que cette culture ne meure pas. Et donc une floraison de maisons d'édition, d'écriture, de manuels pour les enfants, d'apprentissage du syriaque pour les enfants, par exemple, selon tel qu'on pourrait les avoir pour d'autres langues, de constitution de dictionnaires de néologisme, avec des discussions. Moi, j'ai assisté entre un vieil érudit syriaque, Abraham Nourou, qui est mort maintenant, et des jeunes à un colloque où ils s'empoignaient. Comment va-t-on dire ordinateur en syriaque? Est-ce qu'on essaye de créer un mot qui emploie le génie de la langue syriaque, où on se dit, après tout, ordinateur se dit computer en italien, pourquoi pas computer en syriaque, quoi. Voilà. Donc, des vraies discussions. Des traductions de textes. J'ai chez moi le petit prince en syriaque, le prince de Machiavel, etc. Des traductions en syriaque d'œuvres. Tintin en Amérique, si vous voulez, est édité en syriaque. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donnera sur le long terme? C'est un peu un pari, parce que tous ces gens qui sont de la première génération ou de la deuxième, qui quelquefois, nous avons un collègue qui à la maison, il ne parle que syriaque, et ses enfants ne parlent que syriaque classique. C'est-à-dire que c'est plus le dialecte, voilà. Il y a une vraie volonté qui, pour le moment, se marque par une efflorescence. Qu'est-ce que ça donnera au bout de 100 ans, au bout de plusieurs mariages, quand quelqu'un ne sera plus qu'un quart ou un huitième d'origine syriaque? On ne peut pas le prédire. Mais pour le moment, il y a effectivement une vraie volonté.
Et des choses assez intéressantes. Par exemple, nous n'avons jamais eu accès aux images de manuscrits que depuis quelques années, la situation désastreuse au Proche-Orient, parce que les communautés se rendent compte de l'importance de numériser les manuscrits. L'importance de numériser les manuscrits et de les rendre disponibles en dehors de la communauté elle-même. Et là, par exemple, viennent d'être édités 160 homélies de Jacques de Sarroug, qui étaient totalement inédites, à partir de manuscrits qui se trouvent en Turquie du Sud et qui se trouvent à Damas. Donc, et c'est un travail qui a été fait par des moines de l'Église syriaque orthodoxe. Donc il y a une prise de conscience aussi de la fragilité de ce patrimoine écrit et une volonté de le rendre plus ouvert, plus accessible et de le rendre vivant justement en le sortant des manuscrits, en l'éditant et en le communiquant. Donc, c'est une petite lueur, j'allais dire positive, dans une situation qui est par ailleurs très compliquée et très difficile et douloureuse pour les églises.
Et on peut ajouter qu'au Centre Sèvres, en ce moment, donc, il y a un travail de doctorat sur l'édition d'un texte syriaque par une religieuse donc, qui est, en plus, dont l'Église n'utilise plus le syriaque, puisque les Melkites, c'est ce que j'ai appris dans le livre, l'utilisaient à époque ancienne. Hein, je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté. Donc c'est d'autant plus remarquable. Et cet après-midi, je rencontrais à l'abbaye de la Source Tanios Boumansour, qui va publier un livre sur le sacerdoce chez quatre pères syriaques, donc qui termine un travail de plusieurs années en ce moment, quoi, précisément. Donc qui est aussi, bien sûr, lui, il est maronite, ça veut dire qu'il y a des travaux qui se font à Mirara, qu'on en a parlé dans le livre aussi, et bien d'autres qui sont qui travaillent cette tradition.
Et y compris en Inde, où il y a des pères indiens qui viennent étudier en Europe et tout, mais où un de nos collègues et amis, donc tu as fait allusion au colloque, a fondé il y a maintenant 25 ans, 30 ans, un centre de recherche œcuménique en Inde. Et œcuménique, ça veut dire œcuménique entre les 7 églises syriaques de l'Inde, ce qui en soi est déjà un énorme travail diplomatique, mais qui réussit, qui a tout un parcours d'enseignement du syriaque, du master et du doctorat. Et donc les communautés de l'Inde aussi sont très impliquées dans l'idée d'enregistrer, d'étudier et de publier sur cette tradition.
Voilà, je ne sais pas s'il y a... Oui, Monsieur Vandrias.
Si, une question sur une question. Est-ce que je trouverai dans votre livre la réponse à cette question? Y a-t-il un lien entre l'acadien et le syriaque?
Alors, le lien, c'est d'abord que ce sont deux langues proches. Ce sont deux langues sémitiques et donc effectivement il y a une part de vocabulaire qui est le même, une part qui n'apparaît pas forcément quand on étudie l'acadien, parce que comme l'écriture est une écriture sumérienne qui est syllabique, c'est moins évident qu'entre deux écritures qui s'écrivent avec l'écriture alphabétique. Mais la parenté est réelle. Il y a eu un héritage dont Muriel a parlé, on a dit, dans des formes littéraires, puisque par exemple, ces dialogues, on a donc en mésopotamien le dialogue entre le tamaris et le palmier, qui chacun s'envoie à la figure, c'est moi qui suis mieux, non c'est toi, c'est un genre littéraire qui est bien connu et qu'on ne retrouve pas par exemple en grec ou en latin, mais qu'on retrouve en syriaque. Et voilà, donc il y a un autre lien qui est l'héritage affirmé par un certain nombre de gens de tradition syriaque, d'être les héritiers de cette culture, ne serait-ce que en se dénommant Assyro-Chaldéen. Bon. Et c'est quelque chose qui est important. C'est un peu anecdotique, mais le chapeau des dignitaires de l'Église de l'Orient, actuellement, avec ses trois bandeaux, vous allez voir les taureaux de Khorsabad au Louvre, vous trouvez exactement le même chapeau. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de revendiqué. Et puis, on en découvre toujours. Alors, je ne vais pas vendre ce que est en train d'étudier une brillante jeune syriacisante qui va être recrutée au CNRS cette année, mais qui, dans les formes de la grammaire, en tant qu'art grammatical syriaque, voit des choses qui sont sans doute héritées de l'art grammatical acadien.
Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais donc nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous remercions bien sûr ceux qui sont intervenus ici et qui nous ont fait entrer vraiment dans un monde. Alain rappelait l'étendue de l'espace et du temps que cette traversée représente, et en fait qui représente l'histoire manifeste l'histoire de tout l'Orient. Voilà, merci à tous. Donc je rappelle que le vendredi 22 juin, je crois que la plupart ont reçu le tract, une journée donc sur les apparitions du Christ ressuscité dans l'exégèse patristique. Voilà, donc le 22 juin, si certains n'ont pas reçu la feuille, je crois qu'elle est à l'entrée. Voilà, ben merci au Centre Sèvres qui nous accueille. Merci donc en particulier à Michel Fédou, à Henri Lowe qui sont là. Voilà.